Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a une façon de fonctionner un petit peu particulière.
Comment ça se passe pour vous?
Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué.
Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur la façon d'éduquer ma fille.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
C'est plus devenu une particularité gênante, c'est devenu une part intégrante de lui et alors quoi.
Aujourd'hui, je reçois dans mon cabinet Marine. Elle évoque avec nous le bégaiement de son fils et comment elle l'accompagne. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également Sarah Hervé, orthophoniste, spécialiste du bégaiement. Elle s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Marine se pose. Un moment d'échange qui sera complété par notre invité la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce thème et tous ses enjeux. Bonne écoute. Bonjour Marine.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Marine?
Alors aujourd'hui je suis venue pour parler du bégaiement de mon fils cadet.
Il a quel âge votre fils cadet?
Alors mon fils cadet aujourd'hui c'est un petit garçon de 4 ans et demi, bientôt 5.
À quel moment vous êtes rendu compte et comment qu'il y avait ce bégaiement?
Alors, en fait, c'est arrivé en deux temps. La toute première fois où, justement, on a commencé à se poser des questions avec mon mari, c'est quand notre fils avait 2 ans et demi, donc c'est assez tôt. Il a commencé à parler très tôt, vers 18 mois, c'était un petit bonhomme qui s'exprimait très bien. Et en fait, à l'occasion des vacances scolaires de février, il est parti avec ses grands-parents à la montagne, des grands-parents qu'il connaît très bien, mais il y a eu une semaine de séparation et on est allé le rejoindre la semaine d'après. Et c'est vrai que quand on est arrivé, on s'est rendu compte que sa parole était moins fluide. C'est-à-dire que, voilà, sur les accroches de phrases, il butait sur certains mots et on sentait un peu une petite frustration qui commençait à apparaître. Mais ça a duré une semaine, pendant la semaine de vacances. Et après, quand on est revenu à la maison, on était encore un peu alerte, hein, à regarder comment ça se passait. Ça s'est résolu. Donc, moi, j'ai gardé un peu en tête ce petit warning, entre guillemets, en me disant « Ah, bon, bah, y a eu quelque chose. » Mais l'année s'est écoulée et il n'y avait pas du tout d'autres incidents sur sa parole. Et un an pile poil, donc c'est ça qui est assez rigolo, hein, c'est que vraiment, les autres vacances de février à ses 3 ans et demi, rebelote entre guillemets, il repart à la montagne avec ses grands-parents, le bégaiement refait son apparition. Donc pareil, c'est-à-dire que sur les attaques de phrases, il commençait à buter, il répétait des consonnes. Mais là, on dit, bon, bah, en fait, est-ce que ça va faire comme la dernière fois? Est-ce que ça va se résoudre ou pas? On revient à la maison et en fait, on se rend compte que le bégaiement est encore là. C'est pas un bégaiement sévère, mais ça s'entend. Et sachant qu'en plus, on est assez au fait du sujet, puisque mon mari bégaye, on se dit « Ah, bon, bah, en fait, il y a peut-être quelque chose. » Et c'est là où on décide d'aller consulter.
Oui, donc vous étiez déjà sensibilisée à cette question du bégaiement, du fait de votre mari?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai la chance, et je dis bien la chance, de vivre avec quelqu'un qui bégaye. Mon mari, je le connais depuis que j'ai 17 ans. Donc, j'ai connu avec des moments où c'était plus compliqué, des moments où c'était plus facile. Et donc, du coup, j'étais assez familière avec cette problématique-là. Et puis, on le sait, il y a un facteur génétique également qui rentre en compte par rapport au bégaiement. notamment en plus avec les petits garçons. Donc, quand notre fils est né, on avait un peu cette thématique en tête.
Parce que du coup, vous disiez, c'est votre cadet, vous avez d'autres enfants?
Oui, exactement. On a une fille aînée, qui est une fille, et on a un petit dernier qui est un petit garçon également.
D'accord. Donc, ils ont quel âge, votre fille et votre petit dernier?
Alors, on les a rapprochés. Notre fille aînée, elle a 6 ans et demi. Notre cadet, donc du coup, 4 ans et demi. Et le petit dernier, 3 ans et demi.
D'accord.
Riri, Fifi et Loulou, quoi. Voilà.
Et du coup, pour votre fille, il n'y avait eu aucune manifestation
Non, aucune. Et le schéma, pourtant, était un peu similaire. C'est-à-dire qu'elle a parlé également très tôt. À 18 mois, elle parlait déjà bien. Elle était très volontaire, une petite pipelette. Mais il n'y a eu aucune manifestation. Alors que c'était notre aînée, donc forcément, on se posait aussi un peu des questions. Mais à aucun moment, il y a eu justement des difficultés dans la parole.
Et du coup, quand vous observez ces premières manifestations chez votre fils à 2 ans et demi, puis à nouveau à 3 ans et demi, qu'est-ce que ça vous fait vivre, vous ?
Alors moi, mon ressenti par rapport au bégaiement, c'est que je suis assez confiante, en fait. Comme je le disais, j'ai eu la chance de voir comment on pouvait vivre avec le bégaiement et comment on pouvait justement faire en sorte que ce soit une force et que ce soit pas quelque chose de limitant. Donc c'est-à-dire que même si ça paraît assez étonnant, quand j'ai commencé à voir que notre fils bégayait, j'étais pas du tout inquiète. Je me suis dit, ok, et alors ? Bon, bah, on va juste faire en sorte qu'il le vive le mieux possible. Parce que ce qui peut être compliqué avec le bégaiement, c'est surtout en fait comment l'entourage, comment les petits camarades vont le vivre. Parce que sinon, le ressenti de la personne, c'est une façon de parler différente, mais il n'y a pas de souci. Donc c'était surtout ça en fait auquel je pensais. Je me suis dit, bon, en fait, moi, le plus important même pour nous et pour mon mari également, c'était qu'il le vive le mieux possible.
Est-ce que ça a suscité une réaction ou un vécu différent pour votre mari ?
Oui, bah forcément, parce que c'est quelque chose avec lequel il vit depuis, bah lui aussi, hein, c'est arrivé vers 3 ans et demi, 4 ans. Ça n'a jamais été limitant pour lui, mais forcément, notamment à la période de l'adolescence, il a vécu des moqueries, il a vécu du harcèlement. Et forcément, quand on a des enfants, on leur souhaite le meilleur. On a envie qu'ils soient le plus heureux possible, que rien ne les touche, entre guillemets. Et donc forcément, ça l'a confronté à ce vécu. Et il ne voulait pas qu'il souffre comme il avait pu souffrir quand il avait été adolescent. Donc c'était quelque chose qui l'inquiétait, mais par rapport aux réactions des autres.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut toujours l'inquiéter aujourd'hui, avec voilà, son fils qui grandit ?
Par rapport à son fils, du coup ?
Ouais.
Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il garde en tête. Après, on a quand même une certaine chance, c'est qu'il y a une évolution des mentalités par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a davantage de sensibilisation. La cause du bégaiement, bah, on en parle davantage. C'est plus ce handicap caché où en fait on se dit bon bah il suffit que l'enfant ou l'adulte ne parle pas et en fait ça passe crème. Là, il y a quand même des initiatives. Il y a l'éloquence de la différence qui est portée, qui montre qu'en fait des personnes qui parlent différemment et notamment qui bégayent en fait peuvent être éloquentes. Et donc ça c'est très important par rapport aux mentalités, parce que c'est l'utilité un peu du rôle modèle en fait, de se dire bah en fait ok, il y a une différence, mais ça va pas m'empêcher de vivre ma vie normalement, et même pas normalement, de très bien vivre ma vie. Et ça, ce changement de mentalité, l'augmentation un peu de la sensibilisation, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que c'est quand c'est caché qu'on le stigmatise et que ça devient compliqué en fait.
Et votre fils, lui, comment il le vit du haut de ses 4 ans et demi maintenant?
Alors notre fils, du haut de ses 4 ans et demi, il le vit bien. C'est-à-dire qu'au début, quand c'est arrivé, je ne pense pas qu'il s'en rendait vraiment compte. Il n'y a eu que 2 moments où il a vraiment mis des mots dessus. Et d'ailleurs, c'était intéressant ce qu'il le disait qu'à mon mari. Il disait « Papa, ça ne sort pas, les mots ne viennent pas ». Mais il n'y a eu que 2 phrases, mais sinon, ça ne l'empêchait pas du tout d'être un petit garçon extrêmement joyeux, bien intégré en classe, qui fait des bêtises. Ce n'était pas du tout un souci. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on a commencé à faire le suivi en orthophonie, quand on a commencé un peu à parler de ce qu'on appelle les bosses, donc le fait que, justement, ils puissent buter sur des mots, c'était intéressant parce que là, en fait, on voyait qu'il commençait un peu à se crisper. Mais ça a évolué. C'est-à-dire que, comme on a commencé le suivi très tôt, il ne voit pas ça comme un problème, du coup. Il est très heureux d'aller aux séances d'orthophonie. C'est un plaisir pour lui d'y aller. Et c'était ça qui était très important pour nous. C'était de se dire, OK, bon, bah déjà, il commence à bégayer, pourquoi pas. Mais on ne voulait pas qu'il voit ça justement comme un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller très tôt. Comme quand on commence à voir qu'on commence à tousser ou une autre problématique. Et comme ça, ça lui permettait de ne pas associer le suivi en orthophonie et le bégaiement à un problème, mais plutôt à une particularité qu'il a, et c'est comme ça.
Justement, comment vous avez introduit l'accompagnement et qu'est-ce qui a été le déclencheur du coup pour solliciter une professionnelle ?
À ses 3 ans et demi, donc à la deuxième fois. Pas la première fois, parce qu'en plus, on le sait, hein, chez les enfants, des phases de bégaiement, il y en a énormément qui vont bégayer. Et il y a un taux de résolution qui est aussi très élevé, plus de 80%, où en fait, après, l'enfant ne bégayera plus. Donc, on ne s'était pas inquiété plus que ça. C'est vraiment au deuxième épisode où on s'est dit, OK, donc là, il y a des professionnels qui sont très bien formés. Donc, on va l'emmener voir un professionnel, mais juste pour faire un bilan. Parce que ça se trouve, on va nous dire, vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Mais voilà, c'est-à-dire que vraiment, quand on se pose des questions, bah, c'est très bien, mais on va aller directement à la source et voir des personnes qui sont les mieux formées et qui vont pouvoir rassurer l'enfant et aussi rassurer les parents.
En quoi il a consisté ce bilan ?
Alors, le bilan orthophonique, il a consisté en plusieurs étapes. Alors déjà, on y est allé avec mon mari, donc les deux parents y vont avec l'enfant. Dans un premier temps, c'est des discussions avec l'orthophoniste, justement pour découvrir un peu qui est ce petit garçon, donc poser des questions sur son caractère, comment il interagit, est-ce qu'effectivement ça lui pose des problèmes dans sa vie quotidienne, est-ce qu'il a des frères et sœurs, enfin voilà, c'est un peu découvrir l'enfant et découvrir un peu les parents, parce que c'est très important également. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous, avec mon mari, on allait dans une petite salle à côté pour répondre à des questionnaires. Des questionnaires sur notre vécu, en fait, par rapport au bégaiement de notre fils. Comment on le vivait d'un point de vue émotionnel ? Est-ce que justement ça a suscité des craintes ? Ça a suscité des questionnements ? Est-ce qu'on avait l'impression d'être bien informé, d'avoir tous les outils à l'esprit pour vraiment au mieux gérer le bégaiement ? Et donc pendant que le père remplit son questionnaire, la mère remplit son questionnaire, parce que les vécus peuvent être complètement différents, pendant ce temps-là, en fait, notre cadet était avec l'orthophoniste. Pour justement discuter et avoir, je pense, une évaluation in situ, en fait, pour voir comment ça se matérialisait. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qu'a donné ce bilan ?
Déjà, c'était intéressant parce que ça nous permettait de prendre du recul déjà, nous, sur notre vécu, de pouvoir comparer, de se dire, bon, en fait, toi, tu le vis comme ça, toi, t'as répondu à quoi ? Tu penses que t'es suffisamment armé, etc., etc. Donc déjà, ça permettait d'appuyer un peu sur pause et de prendre un peu du recul sur aussi, nous, ce que ça nous traversait. Et par rapport à notre cadet, de mettre, entre guillemets, une note. Enfin, c'est-à-dire que sur le bégaiement, il y a une échelle de 0 à 10. 0 étant aucun bégaiement et 10 étant... On me reprendra si je me trompe, mais un bégaiement sévère, voire mutisme. Et donc, en fait, assez paradoxalement, nous, ça nous a fait du bien d'avoir une note pour savoir, en fait, à quel niveau il se situait. Et il était, à l'époque, il était à 4. Donc, 4, c'est quand même en dessous de 5. Ça le perturbait pas du tout dans son développement. Mais voilà, en fait, on avait un diagnostic, entre guillemets, et on savait à quel niveau il se situait. Donc, finalement, ça nous permettait de nous rassurer, en fait. De savoir, OK, voilà où on en est. Et par rapport à d'autres enfants, il est à ce niveau-là.
Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui a été proposé à votre fils comme accompagnement ?
Ensuite, ce qui a été proposé, alors il y a plusieurs façons en fait d'intervenir par rapport au bégaiement, sachant que donc le bégaiement de notre cadet, il était modéré, 4, c'est modéré. Il y a des interventions, ce qu'on appelle directes, et des interventions indirectes. On a d'abord commencé par des interventions indirectes, donc avec des conseils par rapport justement à notre posture, par rapport à l'enfant. Se mettre à sa hauteur, le regarder bien droit dans les yeux, bien évidemment ne pas lui donner de conseils du type « calme-toi, respire », ne pas répéter, le faire répéter.
C'était des choses que vous pouviez faire ?
Globalement, non, parce que, en fait, j'avais pas mal lu. Donc, c'est déjà des choses qu'on essayait de mettre en place à la maison, mais on n'est pas parfait. Hein, donc, certainement qu'il y a des moments où je dérapais. Mais effectivement, c'est des choses qu'on essayait déjà de mettre en place. Donc, ça, c'est un premier temps d'intervention. On l'a fait un mois. Et après, on est revenu parce qu'on a eu un suivi mensuel post-bilan orthophonique. Et on voyait que ça restait à 3-4. Mais encore une fois, hein, le 3-4, c'est pas dramatique du tout. Hein, et encore une fois, il était très heureux. Ça n'avait pas d'impact sur son développement. Mais c'est vrai, moi aussi, ça allait. Mais bon, on se disait, est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on peut pas l'aider différemment? Et ce qui était très bien, c'est que du coup, on a pu en reparler avec notre orthophoniste et qui nous a dit, mais OK, pas de souci, bah, on peut mettre en place une méthode d'intervention directe. Donc, on a commencé à mettre en place la thérapie Lidcombe, qui est une thérapie qu'on utilise de manière quotidienne avec l'enfant. Ça commence toujours par une séance avec l'orthophoniste qui nous explique un peu ce qu'il faut mettre en place. Et après, le parent passe 10-15 minutes dans la journée avec l'enfant pour refaire un peu des petits exercices. Et ce qui était très intéressant avec cette méthodologie, c'est que ça insiste sur le côté positif, en fait. On va pas aller appuyer, entre guillemets, là où ça fait mal en disant « Ah, ben, va être là », etc., etc. C'est plutôt au contraire, on va valoriser les moments où l'enfant a ce qu'on appelle des paroles douces, où justement, il arrive à s'exprimer comme il le souhaite, etc. Et ça permet à l'enfant également de prendre conscience de sa parole, de voir, même s'il le ressent, parce qu'il avait déjà éprouvé certaines frustrations par rapport à ça, mais là, c'est vraiment de le faire conscientiser. Voilà, bah en fait, mais il y a beaucoup de fois où tu parles avec une belle parole douce, voilà, et puis il y a d'autres moments, il y a des petites bosses, mais oh, bah c'est pas grave, maman elle fait des bosses, papa il fait des bosses, ta sœur fait des bosses, ton petit frère fait des bosses, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que notre cadet a vraiment beaucoup apprécié, bah déjà parce qu'on passait plus de temps avec lui, et donc ça, il y avait un bénéfice secondaire qui était assez important, et en fait, comme ça rend l'enfant acteur, il subit pas, en fait, c'est pas tu dois faire ça, en fait, on lui dit ok, ben, on te donne les outils, mais c'est toi qui vas nous dire quand est-ce que tu te rends compte, etc. En fait, il s'est pris au jeu et c'est devenu même un petit orthophoniste. Donc, c'est-à-dire que même à la maison, il faisait des commentaires sur la parole de sa sœur et de son papa, de sa maman. Et donc, du coup, c'était vraiment quelque chose, c'était devenu un jeu pour lui. Et quand on commençait à évoquer le bégaiement avec lui sur les bosses, bah, c'était plus du tout un problème, quoi. Il n'y avait plus cette frustration qu'il avait pu ressentir où il se braquait un peu. Bah, en fait, il disait, OK, il y a des bosses. Il y a un petit personnage qui s'appelle Monsieur Boum Boum. C'est une sorte de rond avec des gros yeux. Il y a un souvenir qui me revient comme ça. C'est, en fait, c'est devenu tellement de son quotidien que, en fait, quand on est parti en vacances à la plage, il a vu une énorme bouée qui avait également aussi deux gros yeux comme ça. Il me fait « Maman, il y a Monsieur Boum Boum à la plage, c'est génial !» Et voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est plus devenu une particularité gênante. C'est devenu une part intégrante de lui et alors, quoi.
Cette thérapie, elle a été commencée à quel moment? Il avait quel âge?
La thérapie, elle a été commencée, en fait, donc on est allé voir pour le bilan orthophonique à 3 ans et demi. Elle a commencé 2 mois après, en fait. On a fait un mois d'intervention indirecte et après, on a commencé la Lidcombe. Au début, c'était toutes les semaines. Les résultats étaient très bons. Après, c'était toutes les 2 semaines. Et là, on y retourne tous les mois. On a un suivi mensuel.
Et il y a une durée qui est déterminée à l'avance ou cette thérapie, cet accompagnement va se poursuivre?
Alors, il y a une durée, mais à partir du moment où le bégaiement se stabilise pendant 6 mois, je crois, et qu'il y a vraiment, il y a plus de fluctuations, et ben après, on décroît, on revient. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'au début, c'est un peu intensif, hein, c'est chaque semaine. Bah, après, en fait, on décroît la fréquence des séances et on garde un checkpoint, entre guillemets, un rendez-vous mensuel pour voir un peu comment ça se passe. Mais de toute façon, ça fait partie des interventions qui sont quand même, je pense, je crois, limitées dans le temps. C'est pas quelque chose qui va durer toute la vie. Et ça aussi, je pense que c'est important pour l'enfant. De pas se dire, en fait, je vais me traîner ce truc ad vitam aeternam. Non, c'est-à-dire qu'en fait, bah, en fait, c'est bien délimité, on sait ce qu'on fait, ça a un début et ça a une fin, en fait.
Comment va votre fils aujourd'hui?
Il va très bien et c'est un petit garçon, c'est ce que je disais, qui était sur du 3-4 au bégaiement quand on a commencé. Et là, il est sur du 1-2. Parfois du 2, mais plutôt du 1. Il est très heureux, c'est un vrai plaisir, il participe en classe. Parce que quelque chose qui était très important pour nous, c'est qu'on ne voulait pas que ça le limite dans sa communication. On ne voulait pas qu'il réfléchisse à « est-ce que je peux parler ? Est-ce que j'ai le droit de parler ? Est-ce que je peux utiliser ce mot-là ? Est-ce que les gens vont m'écouter ?» Ça, c'était quelque chose qui était inenvisageable pour nous. C'était très important qu'il puisse être libre, en fait. Libre de sa parole, libre de ses pensées, libre de ses actions. C'est un petit garçon de bientôt 5 ans, extrêmement libre. C'est la plus belle chose qu'on pouvait lui souhaiter.
Merci beaucoup, Marine. Est-ce que dans tout ce que vous avez lu, il y a quelque chose que vous auriez envie de recommander aux parents qui nous écoutent ?
Il y a un petit livre qui a été sorti récemment par Sarah Hervé qui s'appelle Les Jolies Bosses. C'est un petit livre que notre fils adore parce qu'en fait, c'est un peu un livre interactif. Ça permet de jouer. On peut décider de faire des bosses, des grosses bosses, des petites bosses, d'avoir une parole fluide. Et encore une fois, c'est ce que je disais, ce qui a fait beaucoup de bien à notre cadet, c'est de le rendre acteur et pas de subir sa parole. Et donc du coup, là, ça permet déjà de montrer à l'entourage qu'est-ce que c'est ? Et de jouer avec l'entourage, de lui dire, en fait, voilà, allez, c'est à ton tour de faire des petites bosses, on va voir si t'es capable de faire des petites bosses. Et donc, du coup, ça permet de sensibiliser les personnes autour, sans stigmatiser.
Merci beaucoup, Marine. Je vous propose qu'on rejoigne maintenant Sarah et Hervé pour parler du bégaiement ensemble. Bonjour Sarah Hervé.
Bonjour.
Tu es orthophoniste, formée aux thérapies cognitives et comportementales. Tu es également formatrice, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui bégaient, enfants, adolescents et adultes, que tu accompagnes en individuel mais aussi en groupe. Tu as également créé de nombreux supports et outils dont Marine vient de nous en parler, ce livre, pour aider les enfants et leurs parents mais aussi les adultes confrontés à cette difficulté. Quelles sont tes réactions à l'écoute du témoignage de Marine ?
C'est un plaisir d'écouter un témoignage comme ça. C'est toujours intéressant parce qu'il y a des choses dont on a conscience quand on travaille ensemble et puis d'autres choses dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, j'étais très intéressée de savoir que l'échelle de sévérité du bégaiement aidait les parents parce que on pourrait se dire aussi, voilà, ça peut inquiéter de donner une note comme ça ou figer quelque chose. Et finalement, voilà, de savoir que c'est rassurant, c'est extra.
Ça objective finalement quelque chose. Et dans votre témoignage, Marine, j'ai entendu que finalement que ça soit 4 ou 8, ça aurait eu certainement le même effet. C'est-à-dire qu'on sait sur quoi on va agir.
Exactement. Finalement.
J'ai beaucoup aimé aussi ta phrase sur le « j'ai la chance d'avoir un mari qui bégait ». Et je pense qu'effectivement, on voit que ça a pu éclairer la façon dont tu as vécu le bégaiement aussi de ton fils. Donc, on voit que Marine, elle est quelque part, elle était déjà désensibilisée du bégaiement. Le bégaiement ne constitue pas en soi un obstacle.
Mais du coup, en effet, on entend cette dimension très positive et non limitante de ce qu'est le bégaiement. Mais est-ce que c'est ce que tu observes chez d'autres parents que tu accompagnes ?
Alors non, parce que la plupart des parents qui arrivent en consultation sont inquiets et ne sont pas forcément eux-mêmes désensibilisés du bégaiement comme les Marines. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un témoignage comme ça pour les autres parents. Non, en général, les parents qui consultent sont inquiets ou au moins l'un des deux parents est inquiet. Souvent, d'ailleurs, ils se font du souci pour l'avenir. Ils se disent « j'ai peur que mon enfant soit moqué plus tard ». Je voudrais qu'il ait un bon métier, qu'il puisse trouver sa voie, qu'il soit pas embêté par le bégaiement. Donc, ils voient parfois à très long terme. Ça peut être parce que ils ont constaté que le bégaiement impactait vraiment la communication de leur enfant. Un enfant qui, par exemple, peut être frustré, peut abandonner ses phrases, peut se mettre à parler moins. Le bégaiement va engendrer souvent une réduction de la production verbale. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui nous alerte. C'est la réactivité de l'enfant face au bégaiement et le fait qu'éventuellement, il se mette à parler moins.
Oui, donc là, on entend déjà, on y reviendra, mais voilà, l'importance en effet de l'accompagnement et de la prise en charge et de ce travail, comme tu dis, de désensibilisation par rapport à cette question du bégaiement et le travail aussi que doit faire le parent, voilà, et pas seulement l'enfant. Et c'est ce que j'ai aussi entendu dans votre témoignage, Marine, c'est voilà, du fait de votre mari, voilà, que vous étiez déjà beaucoup intéressée à cette question et que du coup, ça vous a aidé pour accueillir cette particularité chez votre fils, qui a tout un cheminement à faire en tant que parent. Marine, est-ce que vous avez des questions pour Sarah ?
Je voulais savoir, Sarah, est-ce qu'il y a d'autres thérapies qui, justement, ont prouvé leur efficacité ? Et quand je parle d'efficacité, c'est pas seulement sur l'affluence. Au contraire, c'est par rapport au bien-être des enfants.
On se soucie aujourd'hui beaucoup plus du bien-être et au moins du fait que l'enfant soit confiant en sa communication et que les parents aussi soient confiants en leurs compétences, plutôt que de la partie audible du bégaiement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des techniques qu'on peut développer se soucient essentiellement de ça et de l'impact que le bégaiement peut avoir sur la vie quotidienne et sur la vie sociale, scolaire, familiale. C'est pas des programmes tout nouveaux, mais il y a par exemple le PCI, qui est un programme qui consiste à travailler avec les parents de façon plutôt indirecte sur les interactions et de voir tout simplement qu'est-ce qu'ils mettent déjà en place dans leurs interactions avec leur enfant qui fonctionne. Parce que en soi, les parents, la plupart du temps, ont déjà en eux des solutions, ils sont déjà experts de leur enfant, et tout simplement, nous, on est là pour mettre en valeur les choses qu'ils font déjà et les aider à les faire un peu plus. Ça fonctionne grâce aux vidéos, c'est-à-dire qu'on va filmer des interactions entre les parents et l'enfant et analyser ensemble ce qui fonctionne. Après, il y a aussi des nouvelles thérapies qui sont en train d'être évaluées et qui sont prometteuses, comme le programme Mini Kids. Moi, je vais me former très bientôt et voilà, je pense que j'en parlerai mieux après. Mais ce sont des programmes qui consistent vraiment, pour le coup, à désensibiliser l'enfant et ses parents du bégaiement. Donc il y a vraiment l'idée de produire du bégaiement volontaire, comme on le fait justement dans le petit livre Les Jolies Bosses, c'est de jouer avec sa parole et de pouvoir agir sur la lutte. Parce que quand on bégaye, ce qui souvent d'ailleurs nous interpelle, c'est qu'on voit l'enfant en lutte avec sa parole. C'est pas en soi, bon, le bégaiement au départ, oui, il y a un bégaiement, mais souvent c'est tout ce qu'on va mettre en place pour sortir du moment de bégaiement ou pour ne pas bégayer, c'est ça qui constitue la lutte. Et malheureusement, la lutte, elle fait que le bégaiement prend encore plus de place. Donc, de plus en plus, on a des techniques comme ça. Donc, il y a le Mini Kids qui paraît très prometteur. Vous avez la thérapie de réduction des évitements dans le bégaiement, donc la TREB, qui est également très prometteuse, qui a été utilisée d'abord auprès des adultes. Et puis, on se rend compte finalement qu'auprès des enfants, c'est très intéressant aussi de les amener à réduire cette lutte.
Oui, donc là, dans ce que tu nous dis, Sarah, c'est que les thérapies évoluent. J'imagine que derrière, il y a de la recherche. On propose de plus en plus de choses pour non pas, et je crois que c'était peut-être important ce que j'ai entendu, enlever le bégaiement, mais pouvoir permettre de mieux vivre avec et que ça ne soit pas une limitation dans la communication et dans le développement de soi.
Tout à fait. Il s'agit de réduire les effets du bégaiement. Le retentissement qu'il peut avoir sur la communication et sur la vie quotidienne, bien sûr, d'en réduire aussi la sévérité, puisque si la personne est très, très bloquée avec sa parole et qu'elle lutte beaucoup, justement, ça devient compliqué de communiquer. Donc, nous, on va vraiment réduire le plus possible la sévérité, mais pas en étant dans l'idée qu'il faut faire disparaître le bégaiement. Le bégaiement en soi, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental. C'est comme si, je vous disais, on va éliminer un TDAH, voilà, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, ou on va éliminer l'autisme chez cet enfant. Bah, bien sûr que non, on ne va pas l'éliminer. Et puis, on sait que l'idée d'éliminer le bégaiement, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, on va essayer de faire en sorte que la personne vive le mieux possible avec ça. On ne sait pas en soi s'il disparaîtra totalement. Il peut vraiment beaucoup réduire. On sait que voilà, il y a entre 60 et 70% de rémission totale, mais il y a aussi des gens qui continuent à vivre avec un bégaiement. Alors là, il y a tout un spectre. Hein. Vous avez des gens qui ont un bégaiement léger et qui vont vous dire continuer à bégayer occasionnellement lorsqu'ils sont stressés, fatigués, mais qui mettent vraiment le bégaiement au passé, hein, qui disent vraiment que ça n'est plus un sujet pour eux. Et puis, vous avez des gens qui continuent à bégayer ouvertement, qui vivent très bien avec ça. On fait beaucoup de progrès et on en parle de plus en plus. Et je pense que les personnes qui bégayent sont aussi beaucoup plus médiatisées qu'auparavant. Marine parlait de notre association qui s'appelle l'Éloquence de la différence, qui organise des programmes de formation à l'éloquence pour les personnes avec un bégaiement, mais aussi avec d'autres types de troubles ou de handicaps. Et nous, notre idée, c'est vraiment de montrer que l'éloquence, elle est accessible aux personnes avec un bégaiement. On peut tout à fait avoir un bégaiement et être un excellent communicateur, avoir une expressivité, un regard, une posture, une assurance, une voix qui font que on peut être convaincant, on peut être éloquent avec un bégaiement.
Donc, oui, il y a plein de personnes connues qui bégaient.
Tout à fait, oui, oui.
Est-ce que tu as quelques exemples là ?
Alors en ce moment, on donne l'exemple de Upamecano, qui est un footballeur qui joue en équipe de France et qui a un bégaiement. Il y a un autre footballeur qui s'appelle Ken Sema, qui joue en Angleterre et qui répond à des interviews avec un bégaiement. Le patron de Doctolib, Stanislas Nieuwchâteau, qui est quelqu'un qui s'exprime dans les médias avec un bégaiement ouvert et qui parle volontiers du bégaiement et des forces aussi qu'il a pu tirer de son bégaiement. On a l'exemple de Joe Biden. Mais Joe Biden, ça rejoint un petit peu d'autres personnalités dont on a au départ valorisé le fait qu'ils avaient, entre guillemets, vaincu leur bégaiement. Alors ça, il faut se méfier de ça parce que déjà, ça prône l'idée très validiste que pour réussir dans la vie, il faut avoir une parole fluide. Donc, il faut vaincre son bégaiement pour arriver à tel ou tel poste. Et puis, en réalité, Joe Biden a un bégaiement. On ne peut pas dire qu'il a eu ou qu'il a vaincu. Il a un bégaiement, comme François Bayrou a un bégaiement. Et si vous lisez la préface qu'il a faite, que François Bayrou a faite d'un livre qui s'appelle « Sois bègue et tais-toi » de William Chifflet, il raconte que le bégaiement est toujours présent dans son esprit, en réalité. Hein, que oui, aujourd'hui, on peut l'entendre avoir une parole fluide, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'il a vraiment énormément travaillé et que, quelque part, c'est toujours un petit peu là et qu'il est dans une démarche pour faire en sorte de ne pas bégayer. Donc, il faut faire attention à la façon dont on valorise cette parole non bégayée, parce qu'en réalité, ça peut être très coûteux sur le plan cognitif de faire en sorte d'être fluide. Et puis surtout, les personnes qui, elles, n'ont pas pu accéder à cette fluidité-là peuvent se sentir très coupables et en échec de, elles, ne pas être arrivées à avoir cette fluidité-là.
Et du coup, là, dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a peut-être une évolution là, générationnelle.
Oui.
Quand tu parles de Joe Biden, de François Bayrou, il y a eu ce message, en effet, de devoir vaincre, annuler, enlever le bégaiement et qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, dans cette démarche-là.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Marine, pour votre témoignage, d'être venue partager avec nous la manière dont vous accompagnez votre fils. Merci beaucoup, Sarah, pour déjà ces premières explications. Et on te retrouve la semaine prochaine pour aborder ce que c'est que le bégaiement, plus précisément, toutes ses facettes et comment on peut accompagner au mieux les enfants qui y sont confrontés. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.